Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. La ministre argentine de l'économie a ratifié l'accord avec le Fonds monétaire international. À 70 ans de la mort d'Eva Perón. Au Canada, le pape François a demandé pardon pour les abus commis par l'Église catholique à l'encontre des populations autochtones. La Bolivie et le Chili reprennent leurs discussions sur l'immigration et l'économie. Lula da Silva et le président Jair Bolsonaro ont lancé leur candidature au Brésil. Mexique, une nouvelle marche de migrants vers les États-Unis est en cours. À Washington, la ministre argentine de l'économie, Silvina Navratakis, a reçu le soutien de la directrice du FMI, Cristalina Georgieva, qui a déclaré qu'elles avaient eu une réunion productive. À son tour, Batakis a ratifié le respect de l'accord avec le Fonds monétaire international pour le remboursement d'une dette de 44 milliards de dollars contractée par le gouvernement de Mauricio Macri en 2018. Elle a également rencontré dans la capitale américaine des autorités de la Banque mondiale et du département du Trésor local. La visite à Washington intervient alors que le gouvernement argentin prend des mesures pour contenir l'inflation et la pression sur le dollar qui, sur le marché informel, a augmenté sa valeur de plus de 40% en quelques semaines. La question de l'inflation, qui pourrait dépasser 75% en 2022, fait l'objet d'analyses par des médias internationaux, tels que RFI et France 24.
C'est une goutte d'eau dans l'océan que représente cette dette, mais quand même, l'Argentine a remboursé hier une échéance de plus d'1,2 milliard de dollars sur sa dette totale de 44 milliards contractée en 2018 auprès du Fonds monétaire international. L'Argentine en proie à une inflation chronique, plus de 60% sur les 12 derniers mois. Et si le pays a renoué avec la croissance en 2021, l'avenir semble tout de même assez incertain, d'autant que le ministre de l'économie a quitté son poste le week-end dernier, Théo Conscience.
Oui, après la démission de Martin Guzman samedi dernier et la dégringolade du cours du peso lundi, les prix ont bondi en Argentine cette semaine avec des hausses de 5, 10, 20 et parfois même 30%. Électroménager, vêtements, denrées alimentaires, aucun secteur n'a été épargné. Alors que l'incertitude continue de régner, les fournisseurs temporisent leurs livraisons en attendant que le cours du peso se stabilise. Ne sachant pas à quel coût ils pourront renouveler leurs stocks, les commerçants, eux, anticipent le pire et augmentent leurs prix pour se couvrir. Cela n'a pas empêché les consommateurs de se ruer dans les magasins et sur Internet cette semaine pour accumuler des biens de consommation durable, par peur que l'inflation ne continue de s'accélérer dans les prochaines semaines.
La peluche rouge pour Lucia, la bleue pour Lila, un jeu de société pour toutes les deux. 5125 pesos sans tout, soit environ 15 euros, que leur grand-mère Bettina paye par carte bancaire en 3 versements sans intérêt.
Dans la mesure du possible, j'achète tout à crédit, que ce soit de l'électroménager ou de la nourriture. Je paye en plusieurs versements dès que je peux.
C'est vrai qu'en Argentine, c'est souvent avantageux d'étaler les paiements, explique sa fille Gisela.
Quand on achète en fractionné, on paye au fur et à mesure que les mois passent. Et comme l'inflation augmente tout le temps, les derniers versements sont beaucoup moins importants.
Depuis le début de l'année, en Argentine, l'inflation mensuelle dépasse régulièrement les 5%. Cela signifie que la valeur réelle du prochain versement de Bettina sera inférieure de 5% à celle du premier. Le magasin de jouets, lui aussi, y trouve son compte en gonflant les volumes de vente, explique la gérante Paola Vichalba.
Sur 10 ventes, 8 sont en fractionné. Les gens dépensent plus s'ils peuvent payer en plusieurs fois. Donc c'est un bénéfice pour nous aussi.
Une incitation à la consommation qui fait même l'objet d'une politique gouvernementale. Le programme Ahora 12 permet d'étaler sur 6, 12 ou 24 mois les paiements de biens de consommation durable produits en Argentine. Mais dans ces cas-là, payer cash offre généralement des bénéfices.
Quand tu entres dans un commerce, on te propose de payer comptant avec une réduction de 20% par exemple, ou de payer en 12 versements. Et c'est généralement là que les gens hésitent et ne savent pas quoi choisir.
Après des études d'économie, Ariel Diaz a mis au point Infleta, une calculatrice en ligne qui compare pour un produit donné le prix comptant avec celui en plusieurs versements en tenant compte de l'inflation pour savoir lequel est le plus avantageux.
Nous les Argentins, nous savons que notre monnaie se dévalue de mois en mois. Nos salaires sont actualisés régulièrement en fonction de l'inflation. Moi, par exemple, c'est tous les 3 mois. Cela veut dire que payer une échéance de 10 000 pesos aujourd'hui est plus difficile que de la payer dans 2 ans. Avec ces 10 000 pesos, je ne pourrais acheter autant de choses dans 2 ans qu'aujourd'hui.
Si le paiement fractionné à crédit est une pratique largement répandue au sein de la classe moyenne, de nombreuses personnes en restent exclues. En Argentine, un tiers de la population active appartient au secteur informel et près d'une personne sur 4 vit sous le seuil de pauvreté.
Le mardi 26 juillet, le 70e anniversaire de la mort d'Eva Perón a été commémoré par des hommages dans toute l'Argentine. María Eva Duarte, dite Evita Perón, est une figure majeure de l'histoire récente. Issue d'un milieu populaire, elle a voué une grande partie de sa vie à la réalisation d'œuvres sociales. Née le 7 mai 1919, épouse de Juan Perón, qui présida l'Argentine de 1946 à 1955, puis de 1973 à 1974, connut une trajectoire de météore. Actrice, syndicaliste et femme politique, elle n'a que 33 ans lorsqu'elle disparaît le 26 juillet 1952, emportée par un cancer du col de l'utérus. Il y a juste 70 ans. Evita, comme l'appellent affectueusement les plus démunis, est l'une des icônes de l'Argentine. Le pape François a demandé, lundi 25 juillet, pardon pour le mal commis contre les autochtones au Canada, notamment dans les pensionnats pour enfants amérindiens gérés par l'Église, et a déploré que certains de ses membres aient coopéré à des politiques de destruction culturelle. « Je suis affligé, je demande pardon », a déclaré le pape devant des milliers d'autochtones à Masquacite, dans l'ouest du Canada. Évoquant une erreur dévastatrice, il a reconnu la responsabilité de certains membres de l'Église dans ce système dans lequel les enfants ont subi des abus physiques et verbaux, psychologiques et spirituels. Toutefois, dans les communautés locales, tous ne sont pas encore prêts à pardonner à l'Église catholique les sévices qu'elle a fait subir aux enfants dans les pensionnats. Voici un rapport de France 24.
C'est précisément sur les sites de ces anciens pensionnats autochtones que se poursuivent encore aujourd'hui les recherches par géoradar des corps des enfants, des victimes de ce système qui était fait, disait-on, pour tuer l'Indien dans l'enfant. Ce sont 4 à 6 000 enfants qui ont été victimes depuis la fin du 19e siècle et jusqu'au milieu des années 1990 de mauvais traitements, de tortures, de viols aussi, d'abus sexuels par les religieux et par les personnes qui géraient ce système d'assimilation. Finalement, l'Église catholique était l'une des dernières. L'État avait prononcé des excuses. D'autres branches de l'Église l'avaient fait également. L'Église catholique, qui gérait 6 pensionnats sur 10 à peu près pendant ce 20e siècle meurtrier pour les populations autochtones, eh bien, elle avait toujours refusé de formuler ses excuses. C'est maintenant chose faite.
Les rues de la petite communauté Cree de Masquatchis au sud d'Edmonton avaient besoin d'une nouvelle couche d'asphalte depuis longtemps. La visite du pape aura finalement poussé le gouvernement de l'Alberta à débloquer les fonds nécessaires. Mais ici, lieu du premier arrêt du pape au pays, se contentera de réparer n'a rien de cosmétique.
We don't know what happened there.
Lucy Johnson nous montre le terrain où se trouvait jadis le pensionnat Hermanskin. Son père y a subi de nombreux abus. La visite et des excuses sur place du pape ne suffiront pas à faire disparaître sa colère. À Masquatchis, les leaders de la communauté apprécient le fait que le pape s'arrête chez eux pour reconnaître les torts de l'Église, même si cette visite, qui ravive de nombreux traumatismes, ne fait pas l'unanimité.
It's not gonna be a positive thing through all of us here.
L'expérience ne sera pas positive pour tout le monde, souligne Lucy Johnson. Lieu de pèlerinage catholique pour les Métis et les Premières Nations de l'Ouest, le lac Saint-Anne occupait déjà une place importante dans la spiritualité autochtone avant l'arrivée du christianisme. Que le pape François vienne y prier avec les Autochtones envoie un bon message, croit le chef local. Répéter des excuses pour les pensionnats viendra confirmer une fois pour toutes les terribles souffrances longtemps ignorées ou remises en question. Tony Alexis aurait aimé que le pape reste au lac Sainte-Anne plus longtemps, mais il souhaite surtout que l'humilité dont il fait preuve durant son séjour au Canada laissera sa marque sur l'ensemble de l'Église catholique. De passage en Alberta, le pape fera aussi un arrêt dans cette église du centre-ville d'Edmonton. Lourdement endommagée par un incendie il y a 2 ans, cette église dédiée aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits rouvre ses portes juste à temps pour la visite papale.
You know, it feels much more homey.
L'aîné Fernie Marty s'y sent encore plus chez lui alors que la reconstruction achève. Chaque élément architectural porte une signification autochtone particulière. Une façon de dire que malgré le traumatisme des pensionnats, les Autochtones du Canada ont leur place au sein de l'Église catholique. Fernie Marty comprend que pour plusieurs, la douleur et la colère persistent, mais il préfère voir dans cette visite une occasion à saisir.
La réconciliation est vraiment possible.
Si l'Église est sincère dans sa démarche, tous les Autochtones ne sont pas prêts à se réconcilier avec elle, reconnaît l'archevêque d'Edmonton.
Il faut rencontrer la personne où la personne se trouve, le respecter et, de ce moment-là, trouver des manières d'avancer ensemble.
Recevoir la visite du chef de l'Église demeure un événement joyeux pour les catholiques canadiens, croit le coordonnateur général de la visite papale, mais il assure que la raison de ce séjour du pape au Canada ne sera pas éclipsée.
Le teneur de cette visite est vraiment sombre. Il y a un sentiment pénitentiel à travers tout ça.
Les excuses du pape marqueront une avancée vers la réconciliation, mais il faudra du temps pour en mesurer l'impact. Construire le chemin de la guérison ne se fera pas en quelques jours. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Edmonton.
Les gouvernements de la Bolivie et du Chili ont accepté de reprendre les discussions sur les questions économiques et migratoires. Dans un communiqué, la PAS a ratifié la réactivation de la feuille de route dont les deux pays avaient convenu en avril 2021. Il convient de rappeler que le Chili et la Bolivie, pays frontaliers, n'entretiennent plus de relations diplomatiques officielles depuis plus de 40 ans en raison du différend concernant l'accès à l'océan Pacifique. Au 19e siècle, la Bolivie a perdu son littoral maritime à la suite d'une guerre avec son voisin et le revendique depuis lors.
Brasil, brasileiro, mulato, enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a officiellement lancé sa campagne pour sa réélection. Devant 10 000 partisans à Rio de Janeiro, l'ultra-conservateur a remercié Dieu pour la mission d'être président. Il a également appelé les Brésiliens à ne pas faire l'expérience des douleurs du communisme. Il affrontera le pré-candidat du Parti des travailleurs et deux fois président, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a lancé sa candidature dans le but de laisser derrière lui les 4 années d'un gouvernement ultralibéral. Selon Sébastien Velu, professeur de géographie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris, interviewé par RFI, Jair Bolsonaro part avec un gros handicap.
C'est un début de campagne sous le signe de la religion. Jair Bolsonaro a été acclamé ici sous des chants religieux et des musiques évangéliques par des milliers de sympathisants réunis dans ce petit Maracana, beaucoup moins nombreux que prévu. Jair Bolsonaro qui s'est exprimé pendant plus d'une heure, un long discours pendant lequel il a rappelé être le seul rempart possible contre la menace communiste, faisant allusion à son ennemi juré, Luiz Inácio Lula da Silva. Il a également rappelé son bilan durant ces 4 dernières années, les aides d'urgence mise en place pendant la pandémie, la baisse des impôts sur l'essence qui a drastiquement augmenté ces derniers mois au Brésil, ou encore la très polémique mesure de l'importation des fertilisants russes en pleine guerre contre l'Ukraine. Jair Bolsonaro, qui a eu un discours plutôt modéré, qui était pourtant très attendu par les observateurs internationaux, il n'a pas fait allusion à son argument préféré récurrent de ses derniers discours, remettant régulièrement en cause la légitimité du vote électronique. Un discours modéré sans doute pour calmer un temps le jeu de cette campagne teintée de violence dans les mots, mais aussi dans les faits, malheureusement. Un trésorier du Parti des travailleurs a été assassiné il y a quelques jours à peine par un militant pro-Bolsonaro. À près de 2 mois du premier tour des élections prévues en octobre prochain, cette campagne brésilienne se radicalise plus que jamais.
Jair Bolsonaro entre en campagne pour sa réélection alors que le président sortant multiplie les mises en cause du système électoral brésilien, comme s'il anticipait par avance et s'il contestait par avance une défaite annoncée dans les sondages. Bonjour Sébastien Velu.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géographie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris. Un mot d'abord sur le rapport des forces à un peu plus de 2 mois du premier tour de la présidentielle. Ce sera le 2 octobre. La réélection de Jair Bolsonaro, selon les sondages, est très compromise.
Oui, actuellement, clairement, Lula, qui se représente à la présidentielle, est très largement en tête des sondages pour les élections d'octobre. Donc Jair Bolsonaro part avec un gros handicap.
Comment s'explique ce désaveu après 4 ans de mandat?
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui a été liée au traitement de la pandémie, qui a été quand même jugée insuffisant par les Brésiliens. Pour rappeler quand même, c'est un des pays où il y a eu le plus grand nombre de victimes que le Brésil. Et puis, d'autre part, comme on l'a dit déjà il y a 4 ans, quand Jair Bolsonaro a été élu, il n'a pas été élu pour ce qu'il était. Il a été élu aussi parce que la gauche, donc du Parti des Travailleurs, avait fini un cycle et qu'il n'y avait pas vraiment de candidat en face de lui.
Le Brésil actuellement connaît un taux d'inflation de 12%. Est-ce que cette inflation pourrait être l'arbitre de cette présidentielle ?
Ce qui est certain, c'est que Jair Bolsonaro va beaucoup insister sur les mesures économiques qu'il compte prendre. Je ne sais pas s'il est très crédible, et que Lula aussi, de son côté, va insister sur les nécessaires redistributions pour soutenir les classes populaires au Brésil.
C'est une question majeure dans la campagne ?
C'est pas tellement l'inflation. 12% d'inflation au Brésil, on a connu bien plus. Donc je ne sais pas si c'est un sujet central. Ce qui est un sujet central toujours au Brésil, c'est la question de la pauvreté.
Alors je le disais, Jair Bolsonaro multiplie les critiques contre le système électoral depuis quelques temps. Il l'a encore fait cette semaine devant des ambassadeurs étrangers en poste au Brésil. Que reproche exactement Jair Bolsonaro au système électoral brésilien ?
Effectivement, il y a quelques jours, Jair Bolsonaro, dans un discours devant l'ensemble du corps diplomatique brésilien, a mis en cause le système électoral brésilien. Donc il faut rappeler que c'est un système entièrement électronique, qui permet d'ailleurs un fort taux de participation pour un très très grand pays, avec plus de 200 millions d'habitants. Et Jair Bolsonaro a affirmé qu'il y avait des irrégularités, que ce système pouvait être facilement piraté, mais il n'a donné aucune preuve de cela. Donc les critiques font rapidement état du fait que c'est ce système qui lui a permis de gagner, d'être député à plusieurs reprises, d'être élu à la présidentielle. Et maintenant que l'élection pourrait lui être défavorable, il explique que le système n'est pas fiable.
Dans son discours, il a fait allusion aux forces armées. Est-ce que la menace d'un coup de force militaire en cas de défaite de Jair Bolsonaro va peser sur cette présidentielle ?
Écoutez, je ne le crois pas parce que, évidemment, Jair Bolsonaro, il s'est entouré d'un certain nombre de généraux à la retraite, notamment celui qui est pressenti pour être le vice-président, Braga Neto, qui est un ancien général. Mais il me semble que les institutions politiques brésiliennes sont relativement solides. Donc je ne crois pas à la possibilité d'un coup d'État, d'autant plus que je ne pense pas qu'il aurait d'appui internationaux. Immédiatement après le discours devant les ambassadeurs, par exemple, les États-Unis ont affirmé leur confiance dans les institutions et dans le processus démocratique au Brésil.
Cette mise en cause du système électoral, cette mise en cause à l'avance des résultats de la présidentielle, ça ressemble quand même beaucoup au discours que tenait Donald Trump avant la présidentielle aux États-Unis en 2020. On pense évidemment à l'assaut du Capitole. Est-ce que les partisans de Jair Bolsonaro sont aussi radicalisés que ceux de Donald Trump ?
Ça, c'est difficile à dire et je pense qu'on le verra mieux pendant la campagne. Ce qui est certain, c'est que Jair Bolsonaro, c'est quelqu'un qui a plutôt incité les gens à s'armer, qui est plutôt favorable à régler un certain nombre de conflits par la violence. Donc ça, c'est pas bon signe par rapport à un possible événement comme ceux du 6 janvier.
Une nouvelle caravane de migrants se dirige vers le nord dans le but de rejoindre les États-Unis. Lundi 25 juillet, quelques 4000 centra-américains, dont 600 enfants, ont quitté la ville mexicaine de Tapachula dans le but de rejoindre la frontière nord du pays. Ce problème chronique, qui semble rester sans réponse de la part des autorités des deux nations, fait l'objet d'un récent reportage de France 24.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, cette nouvelle caravane de migrants actuellement en marche vers les États-Unis. Des milliers de personnes ont pris la route direction l'Eldorado américain. L'objectif, c'est aussi de se faire entendre des politiques. Alors que cette semaine, certains dirigeants du continent sont réunis à Los Angeles, c'est le sommet des Amériques. La crise migratoire demeure justement l'un de ses principaux enjeux. Ils ont quitté à pied le Venezuela, le Salvador ou encore le Guatemala. Plusieurs milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, font actuellement route vers les États-Unis en quête d'un avenir meilleur. Cette nouvelle caravane de migrants s'était lancée en début de semaine du Mexique avec pour objectif de réussir à franchir la frontière américaine. Explication avec Florence Gaillard.
Une caravane de migrants, ou plutôt une marée humaine. Depuis lundi, plusieurs milliers de personnes ont envahi les routes du sud du Mexique, direction les États-Unis, 3000 km au nord. Si certains ont la chance de monter dans ou sur des camions, la plupart sont à pied.
Fatigué, oui, mais on doit continuer. On doit continuer, mec. On ne peut pas rester derrière.
Des hommes, mais aussi des femmes et même des enfants, transportés ici dans un caddie, sous la pluie battante.
Pour nous, c'est rien. Il peut pleuvoir, il peut tonner. Personne ne nous arrêtera.
La plupart viennent d'Amérique centrale, du Venezuela, du Salvador, de Cuba et de Colombie. Ils dénoncent les conditions de vie dans leur pays, le chômage, mais aussi la corruption et la peur de la police. Tous réclament un visa et un avenir.
Nous sommes ici depuis presque un mois et n'ont rien résolu concernant le visa humanitaire. Nous voulons un avenir pour notre famille. Nous ne sommes pas violents, nous voulons juste un avenir meilleur pour nos familles.
Les autorités mexicaines les ont cantonnés pendant plusieurs semaines à Tapachula, dans le sud du pays. Mais la situation devenait intenable. Surtout pour ces migrants qui se sont encore appauvris. Comme cette famille du Venezuela, 15 personnes en tout.
Regardez où nous sommes maintenant. Je n'ai jamais pensé à quitter mon pays parce que je vivais bien, je n'étais pas millionnaire, mais j'avais assez pour manger, pour vivre bien dans ma maison. Je n'ai jamais pensé à en arriver là, vraiment.
Lundi, la caravane s'est mise en branle. Elle est passée devant des postes de contrôle mexicains sans être inquiétée. Objectif ? L'Amérique de la prospérité.
Et si le groupe a pris la route cette semaine, c'est dans l'espoir de se faire entendre. Depuis lundi, les États-Unis organisent le sommet des Amériques. La question migratoire est une fois encore au cœur du rendez-vous, terni cette année par l'absence du président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Edwige Wamanissa.
1,9 milliard de dollars pour stopper l'immigration illégale vers les États-Unis. C'est l'annonce faite ce mardi par la vice-présidente Kamala Harris lors du sommet des Amériques. Un investissement colossal des entreprises privées américaines qui vient s'ajouter aux 1,2 milliard de dollars déjà annoncés l'année dernière. Au total, presque 3,2 milliards de dollars pour soutenir l'emploi en Amérique latine et décourager ainsi le départ des migrants vers les États-Unis.
Considérons que El Salvador, le Guatemala et le Honduras ont une population d'environ 30 millions de personnes. Un investissement de 3,2 milliards de dollars aura donc un impact direct sur la qualité de vie des habitants de cette région.
Le sommet des Amériques était l'occasion pour Joe Biden de conclure un accord de coopération régionale sur les migrations. Mais l'absence du chef d'État mexicain au sommet complique la tâche du président américain. Le boycott vise à protester contre la décision des États-Unis d'exclure du sommet le Nicaragua, le Venezuela et Cuba pour des manquements à la démocratie. Autre absent, le président uruguayen Luis Lacalle Pou, après avoir été testé positif au Covid-19. We'll be right back.
se siente cuando cruce la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no los olvido, y a mis viejos que hace varios años que no los he visto. Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente. No lo olviden, tenganlo presente, que aquellos a los que no querían hoy los hacen presidentes. Y aunque les duela mucho, somos mayoría, puro calibre 50. Conseguido con esfuerzo me he ganado, y aquel que se fue para el otro lado y dejó en su país su pasado. ¿Quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado. Nos han prometido tantas cosas y no nos han dado nada. Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, tenganlo presente, y aquellos a los que no querían hoy los hacen presidentes.
Y así se termina este programa en francés de Rey, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.